Parfait. Alors, c'est le
Oui.
cours de Ishopanishad, mantra 15, à la page 25, le point 1.7. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
On fait
Ah oui, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo
Namo
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Je suis le Prabhupada qui
Jai.
elle est bonne.
1.7. La Bhagavad Gita confirme encore cela dans le septième verset du chapitre 7, où Krishna dit qu'il est le concept ultime de la vérité absolue, Matah Parataram Nanyat. Matah Parataram Nanyat Kinchit Asti Dhananjaya Mayi Sarvam Idam Protam Chutre Mani Ganahiva. Bhagavad Gita 7.7. Matah, au-delà de moi, Parataram, supérieur, na, ne pas, Aniyat, Kinchit, autre chose, Ashti, il y a, Danam Jaya, ô conquérant des richesses, Mayi en moi, Sarvam, tout ce qui est, Idam, que nous voyons, Protam, est enfilé, Soutré, sur un fil, Mani Ganyaha, des perles, Iva, comme. Nulle vérité ne m'est supérieure, au conquérant des richesses. Tout sur moi repose comme des perles sur un fil. Une question toujours, depuis toujours, soulève des controverses. La vérité absolue est-elle une personne ou un tout impersonnel? La Bhagavad Gita répond en démontrant au fil des versets, et tout particulièrement ici, que la vérité absolue est Krishna, Dieu la personne suprême, ce que confirme également la Brahma Shamita, Ishvara Paramaha Krishna Sakshit Ananda Vigraha. La vérité absolue, Dieu, la personne suprême, n'est autre que Krishna, Govinda, le Seigneur originel, le sanctuaire de tous les plaisirs, la forme éternelle à la connaissance et à la félicité absolue. De tels écrits qui font autorité ne laissent aucune place au doute. La vérité absolue est bien la personne suprême, la cause de toutes les causes. Ce que pourtant les impersonnalistes réfutent en s'appuyant sur la Svetasvara Svatara Upanishad 3.10, Tato Yad Uttarataram Tad Urupam Anamayam Ya Etad Vidur Amritas Te Bhavanti Atetare Dukkham Eva Piyanti. Bien que le monde matériel, bien que dans le monde matériel, merci, Brahma, le premier être de l'univers, soit suprême parmi les devas, les hommes et les bêtes, l'absolu, dénué de forme matérielle, libre de toute contamination de la matière, le dépasse. Quiconque réalise cet absolu transcende lui aussi la matière, quand les souffrances matérielles continuent de peser sur celui qui l'ignore. Les impersonnalistes soulignent l'importance de l'emploi dans ce verset du mot arupam, sans forme. Pourtant, ce mot ne signifie pas impersonnel. Il indique simplement que la vérité absolue n'a pas de forme matérielle, que sa forme est transcendantale, éternelle, omnisciente et bienfaisante. Telle que,
Bienheureuse.
eh bien, pardon. Que sa forme est transcendantale, éternelle, omnisciente et bienheureuse, telle que l'a décrit la Brahma Samhita dans le verset cité plus haut. D'autres versets de la Svetasvatara Upanishad 3.8-9 corroborent cet avis.
Saute les
Veda.
sanskrits. Saute les sanskrits.
D'accord. Je connais cet être divin et suprême qui transcende les ténèbres matérielles. Il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre la libération, de surmonter la naissance et la mort, que de le connaître. Nulle vérité ne lui est supérieure, car il est la personne suprême. Il est tout à la fois plus petit que le plus petit et plus grand que le plus grand. Tel un arbre silencieux qui étend ses racines, il illumine le monde spirituel et déploie ses innombrables énergies. De tels passages nous permettent de conclure que la vérité absolue est Dieu, la personne suprême, omniprésente, de par ses énergies, tant matérielles que spirituelles. 1.8. Jai.
Omigyan etmirandesya gyanjana sadakaya chatsurun minitam nyena tasmai shri gurave namah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Avec cette description de Krishna, il n'y a pas de doute dans tout qu'il est l'absolu total. C'est bien décrit, du plus petit au plus grand et tout. C'est clair et net.
Oui, effectivement. Alors, il y a un verset qui est vraiment intéressant, là. excusez-moi. À la ligne 20, page 26, là. Je connais cet être divin et suprême qui transcende les ténèbres matérielles. Il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre la libération, de surmonter la naissance et la mort que de le connaître. Alors, ça, c'est intéressant parce que on peut tout de suite se poser la question, et surtout si on est un dévot qui, disons qu'on dit néophyte, un néophyte, c'est-à-dire qui est débutant, et s'il est débutant, il est, et là je vise personne, on parle en général, là, c'est que il ne connaît pas grand-chose. Alors, un dévot qui, bon gré mal gré, reconnaît qu'il ne connaît pas grand-chose, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va devenir motivé à connaître quelque chose au sujet de Krishna. Et ça, c'est une réalisation qui ne doit pas être tenue que c'est bon juste au commencement d'un chemin spirituel. C'est bon pour tout le temps. Alors, pourquoi est-ce que c'est bon pour tout le temps? Ça, c'est une question. Et deuxième question, pendant combien de temps ça va être bon pour tout le temps? Ça, c'est la deuxième. C'est un lié à l'autre.
Mais je peux dire la deuxième question, éternellement, ça va être bon. Sans arrêt, ça n'a pas de fin. C'est toujours du renouvelable, comme toujours le nom de Krishna. Il est toujours bon. Il a toujours la même saveur, puis encore meilleur avec le temps.
D'accord. C'est une bonne réponse, mais je cherche une autre réponse qui est pas loin de cette réponse-là, là. On est dans le même coin. Mais c'est intéressant. C'est bon que ce que tu dis. Mais disons que ça va trop loin.
On n'a jamais fini d'apprendre, en fait, avec Krishna.
Oui.
C'est comme s'ouvrir à, c'est comme grandir en permanence, en fait. C'est pour ça que ça ne peut pas s'arrêter. Et que s'il y a un manquement, si on est vraiment sincère, on ressent le manque et le vide, en fait. Donc, ça n'a pas de, une fois qu'on est sur la route et qu'on a vraiment compris le message du Seigneur suprême, on a cette sensation de soif de toujours en savoir plus, en connaître plus, parce que ben on connaît rien à la base.
Voilà, oui, tout oublié. Mais on ne connaît rien. Ça tourne autour du sujet. Mais à cause de quoi?
Notre manque de connaissances.
Mais à cause de quoi?
de notre oubli, de notre attachement à la matière, peut-être.
Plus rudimentaire que ça. On va donner la réponse. Du fait que nous avons un corps matériel. Alors, le corps matériel est rempli d'ignorance
Voilà.
à la base. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours comme une dualité. Fonctionner dans l'ignorance ou fonctionner dans la connaissance. Mais fonctionner dans la connaissance, c'est comme il faut faire attention de réunir toutes nos énergies pour justement fonctionner selon le concept spirituel de l'existence. Ce qui n'est pas évident non plus. Parce que justement, on est conditionné par la matière. Alors, c'est quoi le début de la connaissance spirituelle?
On n'est pas ce corps.
Exactement. Aham Brahmasmi. Je ne suis pas ce corps. Je suis une âme spirituelle. Mais combien de temps ça peut prendre pour réaliser qu'on n'est pas ce corps?
Des milliers de vies.
Ça, c'est une réponse. Disons, milliers de vies pour les cas désespérés. Disons, on met ça entre guillemets, là. Mais est-ce que ça peut aller plus vite que ça?
En
Oui.
s'abandonnant à Krishna.
Mais comment on va faire?
Mais il faut le connaître en premier avant de s'abandonner à quelqu'un.
C'est une chose, mais plus simple que ça. Là, on faut aller à la racine, à la base, base, base.
S'abandonner au maître spirituel, il faut l'écouter.
Oui, mais qu'est-ce qu'il dit, le maître spirituel?
Chanter le Mahamantra.
Exactement. Alors, dans une classe, Prabhupada dit qu'on peut, en chantant le Mahamantra, en chantant Hare Krishna, on va réaliser qu'on est une âme spirituelle. Et ça, c'est le début de la vie spirituelle. Mais il faut faire attention, parce que qui dit être maître spirituel n'est pas nécessairement un maître spirituel, soit qualifié, ou soit un maître, comment on dit ça, authentique, qui est reconnu, disons, parce qu'il a les qualifications. Alors, ce qu'on appelle en anglais bona fide spiritual master, c'est-à-dire un maître spirituel dûment qualifié. Alors, dûment qualifié, de un, parce qu'il est Il appartient à la succession disciplique qui remonte jusqu'à Krishna lui-même. Et Prabhupada dit, personne ne peut se dire maître spirituel s'il n'a pas été demandé par son maître spirituel d'être maître spirituel. Alors, d'un autre côté, on a le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui a donné comme instruction générale pour tout le monde d'être maître spirituel et enseigner les enseignements de Krishna tels qu'il les donne dans la Bhagavad Gita à tout le monde. Et à ce moment-là, on devient un maître spirituel. Alors, il y a différents maîtres spirituels. Comme on dit, il y a des maîtres spirituels qui sont instructeurs, qu'on appelle Siksha Guru, et d'autres qui sont initiateurs, qui s'appellent Diksha Guru. Et il y a aussi un maître spirituel, Pradarsaka Guru, c'est-à-dire le maître spirituel qui montre le chemin. Alors, comme par exemple, on a dans les Écritures, disons, dans le cas de Bilva Mangala Thakur, dans son cas, à lui, le maître spirituel indicateur était une femme prostituée qui s'appelait Chintamani, qui lui a indiqué la conscience de Krishna simplement en lui disant « Si tu avais autant d'attraction pour Krishna que tu en as pour mon corps, combien merveilleuse serait ta vie? » Alors lui, dans sa vie antérieure, il avait déjà atteint l'étape de l'extase dans le service de dévotion. Alors, il a entendu ça, sa conscience de Krishna d'auparavant est devenue éveillée. Alors, Chintamani est son Pradarsaka Guru. Et par la suite, il vénère, il reconnaît, il a beaucoup de reconnaissance envers Chintamani, qui l'a justement dirigé au tout début vers la voie de la conscience de Krishna. Alors, ça, c'est... Alors, tant et aussi longtemps que nous sommes dans un corps matériel, il y aura toujours du travail à faire. Alors, le corps matériel, c'est une chose. Et qu'est-ce qui permet justement d'avoir une vie pleine de connaissances, de félicité et de... Ouais, connaissances, félicité et, que faut-il dire, d'éternité? Qu'est-ce qui permet ça? On t'entend pas.
Notre abandon à Krishna.
Ça, c'est inclus. Alors, si le corps matériel est plein d'ignorance, de souffrance, qu'est-ce qui ne l'est pas?
La connaissance. Non.
La réponse est donnée dans la question.
La maître spirituelle.
Non.
Non.
Si le corps matériel est plein d'ignorance, de souffrance et est temporaire, qu'est-ce qui ne l'est pas?
L'âme.
L'âme peut être dans le matériel, dans le spirituel. Oui, l'âme a tout ça, mais ça veut dire que qu'est-ce qu'elle a, l'âme, à ce moment-là?
La conscience? Non.
C'est le corps spirituel. Si l'âme a retrouvé son corps spirituel, il n'y a aucun problème. Elle a un corps plein de connaissances, plein de félicité et éternité. C'est tout à fait le contraire du corps matériel.
Okay.
À ce moment-là, on peut dire qu'elle a appris toutes ses leçons et elle a passé tous les examens avec succès. L'âme, à ce moment-là, l'âme est une âme libérée. Alors, Prabhupada donne l'exemple de la barre de fer qui est dans le feu, et à force de laisser la barre de fer dans le feu, la barre de fer devient non différente du feu, même si elle est sortie du feu. Alors, c'est la même chose. On spiritualise le corps que nous avons en engageant le corps, le mental, l'intelligence et l'âme au service de Krishna. À ce moment-là, le corps n'est pas un corps matériel. Alors, prenons un exemple. La coutume veut que les grands dévots et en particulier ceux qui ont pris l'ordre du renoncement, ne sont pas, leur corps, quand ils quittent ce monde, n'est pas brûlé, comme pour tout le monde. Le corps est enterré. Il est mis en samadhi, leur corps.
Pourquoi?
Parce que, hein?
Pourquoi, c'est ce que j'avais demandé, pourquoi?
Parce que leur corps est spirituel et complètement engagé au service de Krishna. C'est ça la compréhension, même si quelqu'un peut jouer un petit peu l'avocat du diable, là. Ben oui, mais on ne sait pas, on ne le voit pas. À ce moment-là, il faut regarder avec les yeux des Écritures et regarder justement à quel point cette personne-là, ce dévot-là, était engagé au service de Krishna. Alors, comme par exemple, prenons l'exemple de Srila Prabhupada, qui aurait le moindre doute que Srila Prabhupada n'était pas engagé à 100% au service de Krishna. Il n'y a personne qui ose même penser à douter de la pure dévotion de Srila Prabhupada. Alors, des dévots comme ça, tu peux pas les traiter comme des personnes ordinaires, conditionnées, lorsqu'ils ont quitté leur corps. Alors, le respect et la coutume veulent que la façon de faire, c'est de les mettre en samadhi. Alors, à Vrindavan, en Inde, ou à Mayapur, il y a justement des samadhis pour les grands dévots qui ont passé du temps sur Terre et qui ont servi Krishna dans le service de dévotion. Alors, des grands dévots, on peut dire, dans une certaine mesure, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Alors, les grands dévots, quand ils viennent sur Terre, ils ont chacun une mission. Et qu'est-ce qui reste derrière eux, la majorité du temps, des grands dévots? Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux?
La connaissance de
Oui,
questions apprises,
sous la forme de
de
lecture.
livres,
des livres,
de
justement.
livres.
Alors, les grands dévots, quand ils écrivent, ça devient des écritures. Ça devient aussi valable que des écrits védiques. Alors, Prabhupada donne l'exemple de Narottam Das Thakur, qui est un grand poète, Vaishnav, mais qui, lui, a écrit des chansons. Il a écrit des hymnes qu'on chante encore aujourd'hui. Et Prabhupada dit, ces hymnes sont aussi bons que des littératures védiques. Alors, un autre exemple, celui de Bhaktivinoda Thakur, qui, lui, a écrit une centaine de livres et qui a écrit des chansons qui sont chantées par les dévots aujourd'hui encore. Alors, c'est ça la vie des grands dévots de Krishna. Ils veulent propager la conscience de Krishna, ils veulent partager avec tout le monde et donner une opportunité à tout le monde de connaître la conscience de Krishna. Alors, il y a un grand dévot qui a écrit, je pense que c'est Bhaktivinoda Thakur, je me souviens plus, là, mais qui a écrit justement, en anglais, on dit, he reasons hill, one who thinks that Vaishnava die, en tout cas, l'idée, là, si quelqu'un pense que les Vaishnavas meurent, il se trompe. Parce que les Vaishnavas vivent dans leurs enseignements. Ça, c'est la réalité. Alors, comme par exemple, Prabhupada écrit, dans l'introduction du Srimad Bhagavatam. Et Prabhupada écrit, là je le dis dans mes mots, que si on suit bien les directives de Sukadeva Goswami quant à la lecture du Srimad Bhagavatam, alors Prabhupada dit, Krishna va apparaître dans chaque page, sur chaque page. Dans chaque page du Srimad Bhagavatam. Alors, il faut suivre, et puis le résultat va venir si on suit les instructions correctement telles qu'elles sont données par les acharyas. Ça, c'est bien aussi. Le mot acharya veut dire quelqu'un qui enseigne par l'exemple. Alors, on dit, il y a un dévot qui, le Seigneur Chaitanya, qui faisait la louange d'un dévot, puis il disait, achara prachara. Achara, tu enseignes par ton exemple personnel, et prachara, tu donnes les enseignements de Krishna ou des grands acharyas ou des écritures. Ah, c'est parfait. Ah, c'est ça qui fait que la conscience de Krishna continue de se propager, continue d'être pratiquée. Alors, Prabhupada disait que les Britanniques, quand ils occupaient l'Inde, ils ont essayé, disons, comme de faire que les gens, les Indiens se déracinent de leurs origines, mais n'ont jamais été capables, à cause des enseignements transmis par la succession disciplique. Tu sais, des fois, on se demande, même matériellement parlant, les gens qui sont, par exemple, dans des minorités, qui appartiennent à des minorités dans des pays. Donc, comme ils disent ici au Québec, les minorités visibles. Ils ne veulent pas perdre leur culture. Parce que ça se transmet d'une génération à l'autre. Comme par exemple, ici au Canada, on a les Autochtones. Mais les Autochtones ne sont pas prêts d'oublier leur culture. Ah, c'est la même chose avec les Vaishnavas, les dévots de Krishna, que la culture se cultive, se poursuit. Parce que justement, pour répandre cette culture-là, il y a un processus de base qu'on appelle Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Ça veut dire écouter au sujet de Krishna, parler de Krishna et se souvenir de Krishna. Alors, si on n'est pas capable d'écouter au sujet de Krishna, parler de Krishna, comment est-ce qu'on va se souvenir de Krishna? C'est impossible. Alors, c'est pourquoi, comme Prabhupada dit, le mouvement de la conscience de Krishna n'est pas un mouvement religieux sentimental. C'est un mouvement qui est basé sur la philosophie de la conscience de Krishna. Alors, c'est comme Prabhupada dit, la religion sans philosophie, ce n'est que sentiment. Et la philosophie sans la conscience de Krishna, ce n'est qu'il... Oh boy, ça c'est moi en français. Éculubration. En d'autres mots, c'est de la spéculation. Là, c'est le mot plus simple à dire, là. C'est ça qu'on dit? Éculubration. En tout cas. Mental speculation en anglais.
Élucubration.
Élucubration, c'est ça. Bon, c'est ce mot-là. C'est bon.
La spéculation,
mot.
Ça va bien aussi.
Ouais. Ce n'est que de la spéculation. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, quand on y pense bien, comment on ne peut pas être reconnaissant envers le maître spirituel? On ne peut qu'être reconnaissant envers le maître spirituel qui nous montre la voie, qui nous guide, qui nous instruit. Alors, toute notre reconnaissance va à lui. Et Krishna est content comme ça. Si on voue notre dévotion au maître spirituel, autant au maître spirituel et autant à Krishna. Les deux sont inséparables. Voilà. C'est question, commentaire?
Juste sur... ça prend quand même une attirance au maître spirituel pour l'écouter. C'est pas tout le monde non plus qui a cette attirance vers les paroles d'un maître spirituel. Il faut déjà avoir la grâce du Seigneur pour pouvoir être comprendre qu'est-ce qu'il dit premièrement, là, puis avoir une attirance de vouloir comprendre plus. C'est quand même une grâce. C'est pas n'importe qui.
Oui. La grâce de Krishna dans ce cas-là, elle est de l'intérieur. Et, comme c'est dit, par l'arrangement de Krishna, on obtient un maître spirituel. Et par l'arrangement du maître spirituel, on obtient Krishna. Alors, Krishna, lui, est témoin dans notre cœur depuis toujours. Et, s'il veut, comme Krishna dit, de moi, je suis situé dans le cœur de chacun, de moi viennent la connaissance, l'oubli et le souvenir. Alors, si Krishna veut qu'on se souvienne de telle ou telle personne spirituelle en plus, il y a quelque chose qui va arriver par sa grâce. Parce que sinon, Krishna le sait tellement bien et plus que n'importe qui. Sinon, on a les yeux fermés puis on passe tout droit. Parce qu'on est dans Maya, on est sous l'influence de l'énergie matérielle. Alors Krishna donne l'intelligence pour justement qu'on s'intéresse aux choses spirituelles et qu'on ait un intérêt. Et comme c'est dit, la vie spirituelle, ça commence avec certaines questions. Alors certaines questions comme « Qui suis-je? Quel est le but de la vie? » qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon devoir? Est-ce que j'ai un devoir à faire? Ainsi de suite. Alors, quand c'est certaines questions de base à la base, et que quelqu'un est sincère, et que quelqu'un aussi a fait des activités pieuses dans le passé aussi, parce que c'est pas donné à n'importe qui, là, de pouvoir être présenté à la conscience de Krishna. Alors, ça prend un certain bagage antérieur d'activité pieuse qui fait que Krishna, disons, libère la personne graduellement de l'emprise de l'énergie matérielle. Alors, et comme on dit encore aujourd'hui, surmonter la naissance et la mort. Attends une minute, on relit le paragraphe là. Je connais cet être divin et suprême qui transcende les ténèbres matérielles. Il n'existe pas d'autre moyen d'atteindre la libération, de surmonter la naissance et la mort, que de le connaître. Et ça, c'est ça que ça nous prend, c'est ce vaccin-là que ça nous prend pour nous tenir debout, spirituellement parlant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec notre foi si on nourrit justement notre écoute, on alimente notre écoute au sujet de Krishna? Qu'est-ce qui arrive avec notre foi?
Elle grandit, elle se renforce.
Exactement. Notre foi s'affermit. C'est ça qui arrive. Alors, c'est dit, dans les différentes étapes de la vie spirituelle, c'est basé sur, disons, la croissance de la foi. C'est ça qui fait la différence. Alors, un dévot débutant, il a un peu de foi. Pas qu'il a zéro, il a un peu de foi. Mais s'il s'engage dans le service de dévotion, sa foi va grandir. Alors, les étapes sont décrites aussi dans les Écritures, qu'au début, Ado, Shraddha, Sadhu, Sangota, Bhajana, Kriya, ce verset-là, là, il y en a plusieurs. Ça décrit toutes les étapes avant d'arriver à l'étape ultime. C'est quoi l'étape ultime du progrès de la foi?
D'être convaincu.
L'abandon ultime.
Convaincu, c'est une étape. C'est pas l'étape ultime.
L'abandon total?
Non, c'est pas l'étape ultime. Oui, l'abandon, c'est une façon de le dire, là. On peut dire ça comme ça, mais il y a un mot pour ça. Ce qu'on appelle...
Préma?
Pardon?
Préma? Pardon?
C'est en plein ça. C'est ça l'étape ultime. C'est préma. Alors, le verset dit préma byudan chati, qui veut dire que l'étape ultime, c'est préma. C'est l'amour pour Krishna, le pur amour de Dieu. Avant le pur amour de Dieu, est-ce qu'il y a une étape qui précède? Sûrement qu'il y a une étape. Cette étape-là s'appelle bhava, l'extase dans le service de dévotion. Avant bhava, est-ce qu'il y a une étape? Oui, il y a une étape. Ruchi, c'est-à-dire l'attachement pour Krishna. Avant Ruchi, est-ce qu'il y a une étape?
Nishta, quelque chose comme ça?
C'est en plein ça. C'est Nishta, qui veut dire la constance ou la fermeté. Lorsque quelqu'un atteint Nishta, il ne peut pas être convaincu par qui que ce soit, quoi que ce soit, de faire d'autres choses que de continuer dans la conscience de Krishna. Ça, c'est Nishta. Ça veut dire qu'il est fixe dans le service de dévotion. Mais il n'a pas atteint la pleine perfection, mais il est fixe. Et avant Nishta,
je pense qu'il y en a un autre parce que j'ai Bhakti, mais c'est pas...
Il y en a un autre, justement. Avant Nishta.
Non, je l'ai pas.
Moi-même, j'essaie de le trouver, mais je sais qu'il y en a un autre et je sais qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire se débarrasser de toutes les mauvaises habitudes.
Les mauvaises habitudes, oui. Anartha, quelque chose.
C'est ça. Anartha Nivritti. Nivritti, ça veut dire comme le renoncement ou abandonner. Et anartha veut dire toutes les choses qui sont, ne sont pas compatibles avec le service de dévotion.
Merci, Prabhu.
Et là, avant ça, on arrive à la foi, un intérêt préliminaire pour la conscience de Krishna. Ado, Shraddha, Sadhu. Ah, avant ça, excusez, il y en a un autre. Après la foi, c'est Sadhu Sangha. C'est l'association avec les sadhus, avec les personnes saintes. Alors, Prabhupada, dans la classe que j'ai écoutée, Prabhupada dit, par l'association avec les sadhus, ça va nous rendre libérés. Ou ça va nous libérer de l'influence de l'énergie matérielle. Alors, sadhu sangha. Ado shraddha sadhu sangota anartha nivritisyat. Tato narta ruchis tata. En tout cas, ensuite c'est bhava, ensuite prema, le pur amour pour Krishna. Alors c'est étape par étape. Alors, si c'est étape par étape, quelle est notre position? On se met en ligne, puis on va suivre. C'est ça notre position. C'est comme c'est comme aller, comme on a parlé l'autre fois, on donnait un exemple très grossier, là. Le magasin qui offre, je vais pas le dire, là, mais qui donne des cadeaux. Il va y avoir une file, des centaines de monde qui vont venir, qui vont se mettre en ligne, qui vont faire la queue pour avoir les cadeaux. Alors, dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Les dévots se mettent en ligne. Alors, dans la ligne, est-ce que c'est une ligne un par un ou c'est un autre genre de ligne? Attends, attends.
Un autre genre de ligne.
Un autre genre de ligne. Alors, expliquez, s'il vous plaît.
Ben, c'est pas un après, comme c'est pas l'un derrière l'autre, c'est plus, j'ai envie de dire l'un avec l'autre, en fait. Parce que on regarde, on est comme en ligne, mais on regarde vers la même direction. Je sais pas comment visuellement expliquer ça.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est que on est en ligne, mais il y a des dévots côte à côte.
C'est ça, voilà.
Il y a des
Merci.
dévots, un à gauche, un à droite, puis il y en a des centaines et des milliers comme ça. Alors, c'est pourquoi c'est ça l'association des dévots. C'est que il y a des dévots qui sont plus avancés que nous. Disons que eux autres sont plus en avant de la file, là. Ou peut-être sont en arrière de nous, c'est relatif, là. Il y a des dévots qui sont carrément supérieurs à nous, qui sont plus avancés que nous, et il y a des dévots qui sont pairs, qui sont de même niveau. Et il y a des dévots débutants qui sont débutants dans le service de dévotion. Alors, on a une relation avec chacun de ces sortes de dévots-là. Alors, c'est décrit ça dans le Upadeshamrita, justement. Quand on a affaire à des dévots qui sont plus avancés que soi, qu'est-ce qu'on fait?
Les écoute.
On les écoute et
On les prend pour exemple.
on les sert.
Oui, on les sert.
Oui, on les sait en plus, oui.
Alors, on les écoute et on les sert. Alors, est-ce qu'on connaît de tels dévots? Ne fût-ce qu'un.
Oui.
Là, je suis Prabhupada.
On connaît le maître spirituel. Le maître spirituel. Si on pense, et ça c'est une absurdité en soi, là, si on ne pense pas que le maître spirituel nous est supérieur à tout point de vue, à ce moment-là, à quoi ça sert d'accepter un maître spirituel?
Rien. Parce
Absolument rien.
on est
On
complètement à côté de la plaque.
est à côté de la plaque. Et si on ne pense pas qu'il est supérieur, quel est le danger qui vient après?
Ben de se croire supérieur, enfin de se mettre au même niveau, alors que c'est pas du tout le cas.
Et on laisse tomber.
Exactement. Alors le danger, c'est l'envie.
L'orgueil, l'envie,
Alors,
l'égo.
l'envie nous fait penser, disons, de rabaisser l'objet de l'envie et de se croire supérieur. Alors, l'idée, à ce moment-là, si on a une mentalité comme ça, la question se pose, pourquoi devrais-je suivre les instructions de cette personne-là? Puis là, ensuite, là, ça c'est vraiment grossier, c'est de dire ou de penser, ben pour qui se prend lui? Ça c'est une autre difficulté aussi. Les gens peuvent être en présence d'un pur dévot et avoir un genre de mentalité, mais pourquoi je devrais écouter cette personne-là? Parce que dans leur tête, ils ont cette attitude-là envers tout le monde. Et ça, c'est très malheureux. C'est un conditionnement matériel. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens, malheureusement, ont été frustrés à maintes reprises dans leur relation avec autrui. Alors, c'est comme s'ils veulent se protéger subconsciemment ou consciemment. Puis là, ils refusent tout le monde. Ils rejettent tout le monde. Et ça, c'est... On a des exemples grossiers, disons, institutionnalisés dans diverses sociétés. Alors, comme par exemple le régime communiste, disons, régime communiste, si on peut dire, bien pratiquant dans leur communisme, là, qui laisse aucune expression religieuse être manifestée. Là, aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, là, ça a perdu des plumes, cette attitude-là, mais ça peut ressurgir n'importe quand. Parce que il y a une mentalité, une philosophie, et si c'est institutionnalisé, là, c'est un problème pour les dévots. Les dévots de Dieu. Alors, pas nécessairement des dévots Hare Krishna, là. Et ça peut être des chrétiens, ça peut être d'autres religions, envers qui des gouvernements, disons, athées à la base, leur donnent du fil à retordre. Alors, comme par exemple en Chine. Moi, je connais pas les groupes, là, les Ouïghours, mais le gouvernement chinois est sur leur cas. Ils les emprisonnent, pas les emprisonnent, les mettent dans des camps de concentration, travaux forcés, etc. Ah, c'est rien de nouveau sur la Terre, ça a toujours existé, ces affaires-là. Et ça va toujours exister. Parce qu'il y a deux genres de personnes, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Il y a les Suras et les Asuras. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer. Ananda, voudrais-tu lire, s'il vous plaît?
Avec plaisir. 1.8. Krishna est donc la source du Brahma Jyoti ainsi que du Paramatma omniprésent. Le Srimad Bhagavatam 1.2.11 nous en offre la confirmation. Les doctes et sages spiritualistes qui connaissent la vérité absolue nomment cette substance unique, au-delà de toute dualité, du nom de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. 1.9. Un peu plus loin dans la Bhagavad Gita, 10.42, il ajoute Atava Bhuneitena, Kim Jetena Tarvajuna, Vishyatabhyaham idam Krishnam, Ekamshena Chito Jagat. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Voici le verset en question.
Voilà la traduction.
Parfait. Mot à mot?
Ouais,
Ou direct?
vas-y, vas-y.
Atava ou Bahuna, nombreux, Etena, par cette sorte, Kim, ce que, Jetena, sachant, Tava, toi, Arjuna, ô Arjuna, Vishtabhya, pénétrant, Aham, je, Idam, cet, Krishnam, entier, Eka, par une, Amsena, partie, Stita, je suis situé, Jagat, univers. Mais à quoi bon, ô Arjuna, tout ce détail? D'une part infime de ma personne, je pénètre et soutiens l'univers tout entier. Teneur est portée. Le Seigneur suprême, qui pénètre en chaque chose en sa forme d'âme suprême, est partout manifesté dans l'univers matériel. Il est vain, dit-il à Arjuna, de voir la grandeur et l'excellence des choses dans leur singularité. Il faut savoir que toutes n'existent que grâce à la présence en chacune d'elles de l'âme suprême. Depuis Brahma, l'être le plus gigantesque, jusqu'à la minuscule fourmi, tous n'existent que parce qu'il est en eux et les préserve. Il existe une mission en Inde qui promulgue une théorie selon laquelle il serait tout à fait possible d'atteindre Dieu, la personne suprême, en adorant n'importe quel Deva. Mais ce chapitre entend nous éloigner du culte des Devas, puisque même les plus grands d'entre eux, Brahma et Shiva, ne représentent qu'un fragment de la grandeur du Seigneur suprême. Krishna est à l'origine de tout ce qui naît, et comme l'indique le mot Asamordva, merci. Nul ne l'égale ou ne lui est supérieur. Le Padma Purana nous avertit que de mettre le Seigneur Krishna sur le même plan que les Devas, s'agirait-il de Brahma ou de Shiva, fait aussitôt de nous un athée. Celui, par contre, qui étudie consciencieusement les descriptions des opulences divines et des manifestations de l'énergie de Krishna, comprendra sans le moindre doute sa position. Il pourra sans jamais dévier, fixer sur lui son mental et l'adorer. Le Seigneur est omniprésent, car il pénètre en chaque être et en chaque chose sous la forme de sa représentation partielle, l'âme suprême. Par conséquent, les purs dévots absorbent leurs pensées dans le service de dévotion, en pleine conscience de Krishna, et demeurent sur un plan transcendantal. Les versets 8 à 11 de ce chapitre ont clairement défini le service de dévotion et l'adoration de Krishna, traçant ainsi la voie de la pure bhakti. Le chapitre tout entier a d'ailleurs décrit en détail la manière d'atteindre la plus haute perfection dévotionnelle de l'union au Seigneur suprême. Shira Baladev Vidyabhushyana, grand acharya de la succession disciplique issue de Krishna, conclut ainsi son propre commentaire sur ce chapitre. Yak Shakti Leshat Suryadya Bhavanti Ati Ugra Tejasa Yad Amshena Dri Tam Vishvam Sa Krishno Dasame Kshyate. On doit adorer Krishna car de sa formidable énergie, même le puissant soleil tire sa force et de son émanation partielle, il soutient le monde.
Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
La seule expression qui me vient à l'idée, c'est... on dit souvent tous les chemins mènent à Rome, mais ça dépend le chemin qu'on va emprunter. Il y en a qui peuvent être plus difficiles et plus périlleux. Donc, avec ce verset-là, c'est assez clair. Là, faut abandonner toutes sortes d'autres, adorations de d'autres devas et se concentrer sur Krishna, Dieu, la personne suprême.
Exactement. Très bien dit. C'est en plein ça. Alors, qui va adorer les Devas? Et c'est une autre façon de dire, c'est quelle est la difficulté d'adorer Krishna? C'est deux aspects du même thème, non?
Je dirais ceux qui attendent des fruits. Quand on attend des fruits. Des fruits okay. de ses actes ou de ses adorations. On attend un
Mais c'est justement qui fait ça?
Qui prie les Devas. Les autres.
Qui adore les Devas?
Les karmiques.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le Bhagavad Gita? Krishna dit justement qui adore les Devas? Et pourquoi ils adorent les Devas?
Ceux qui attendent des résultats plus vite.
Exactement. Alors, comme Krishna dit, c'est dans la Bhagavad Gita, ça. Le verset, c'est dans le chapitre 7, ça. Alors, Krishna dit, ceux qui ont des désirs de concupiscence, ils adorent les Devas. Alors, et Krishna dit, Krishna dit aussi, je leur donne la foi pour qu'ils puissent atteindre les résultats. Mais ils ne savent pas que les bienfaits qu'ils obtiennent, ça vient de moi seul. C'est dans la Bhagavad Gita. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Que tous les bienfaits de l'adoration des devas, ça vient de Krishna. Pourquoi?
Est-ce qu'il est la source?
Oui, mais il faut expliquer, là.
Ben, c'est lui qui, c'est Krishna qui va donner la capacité aux devas de donner à ceux qui les pris quelques pouvoirs ou quelques bénéfices matériels ou quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est lui qui est la source.
Oui, correct. Mais les devas, là, si on se place dans les souliers des devas, il y a un deva qui dit, « Hey, il y a Monsieur Joe Blow sur la terre qui est en train de m'adorer, là. » Là, il y a une façon de communiquer avec Krishna, là.
Mm-hmm.
Il envoie un télégramme. Ça, c'est faux, là. Il n'y a pas de télégramme. Alors, il demande à Krishna, est-ce que je lui donne ou je lui donne pas? C'est ça qui se passe. Alors Krishna dit, oui, donne-lui. Alors, le deva donne. Mais ça a l'air que c'est le deva qui donne. Mais dans le fond, sans la permission de Krishna, il n'y a rien qui va se passer. Alors, c'est de cette façon-là qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est basé sur, disons, l'assentiment ou la volonté de Krishna pour que quelqu'un obtienne de la part des devas tel ou tel bienfait.
Oui, parce que c'est Krishna qui sanctionne tout acte de toute façon. C'est lui qui décide. Donc, c'est comme ça.
Ouais.
Et les devas sont des dévots de Krishna aussi.
Ouais, dévot de Krishna. Alors, c'est Krishna qui donne tout, en fait. Et j'écoutais une classe de Prabhupada. Il disait, si une femme veut avoir la beauté, elle devrait adorer Uma. Uma, qui est l'épouse du Seigneur Shiva. Et Prabhupada dit dans cette classe-là, quand il explique ça, il dit, Uma est très jolie. Alors, quelqu'un qui veut la beauté devrait adorer Uma. Alors, ainsi de suite, là, quelqu'un qui veut le savoir, qui est-ce qu'il devrait adorer? Ça, c'est dans le Srimad Bhagavatam.
Brahma?
Non.
Non.
Une déesse en passant.
Sarasvati.
Sarasvati.
Oui, la déesse du savoir.
Alors, il y a une prière justement avant de réciter le Srimad Bhagavatam qu'on dit. On offre son hommage à Narayan, à justement la déesse Sarasvati, pour qu'elle nous donne ce savoir-là, ou qu'elle nous permette d'acquérir cette connaissance qui vient du Srimad Bhagavatam. Alors, on reconnaît qu'il y a une déesse de l'érudition, qui est la déesse Sarasvati. Et il y a un autre deva qui, lui, donne des bénédictions pour, disons, perfectionner ou qui sont favorables au service de dévotion. Ça s'appelle comment? Ganesh.
Ben oui.
Alors, il y a beaucoup de matérialistes qui adorent Ganesh. Quand vous allez, mettons, dans des boutiques indiennes, il y a des statues de Ganesh. Ganesh, c'est le comptable. Attends, c'est ça? En tout cas, Ganesh, Si vous voulez avoir de l'opulence matérielle, vous adorez Ganesh. Et ça donne ce que ça donne. Vous aurez peut-être l'opulence, mais toute opulence, ça vient de Krishna.
Mais en fait, c'est un petit peu, je pense, j'avais vu ça dans une classe de Prabhupada, justement. C'est un peu comme le président et ses ministres, en fait. Parce que quand il y a des choses à peut-être à signer sur, je sais pas, les lois scolaires, les machins et tout ça, ou des budgets, des choses, c'est le président qui va dire oui ou non. Mais au final, ceux qui vont comme exécuter par la suite un peu plus, ça va être peut-être plus les ministres. Je sais pas, c'est une analogie qui me passe par la tête.
Ouais.
On veut.
Ouais. Disons, dans la mesure où les, disons, dans la hiérarchie des signatures,
C'est ça.
tantôt c'est le président, tantôt c'est le ministre, ou tantôt c'est le sous-ministre. Si le ministre ne peut pas, c'est le sous-ministre ou l'adjoint, représentant qui vont signer, mais ça, c'est des détails, là. Alors, pour un dévot, disons, on résume ce cours. Tout est, disons, relatif à la volonté de Krishna. C'est tout. Tout aussi simple que ça, là. Alors, quand un dévot s'abandonne à Krishna, ça aussi c'est dans le Srimad Bhagavatam, il n'a plus de devoir envers les dévots, envers les grands sages, envers les ancêtres. Mais Prabhupada dit, en tant qu'être humain, là, dès l'instant qu'on prend naissance, on a des devoirs envers les devas, envers les ancêtres, envers les enseignants, les sages. Mais si on devient dévoué à Krishna, c'est suffisant. On n'est pas obligé de montrer, de faire preuve d'un culte envers les personnes comme ça, les devas, les ancêtres et les justement. On n'est pas tenu d'eux. Parce que Krishna est comme quoi? Krishna est comme la racine. Si on arrose la racine de l'arbre, toutes les parties de l'arbre sont compensées ou sont nourries. Alors, c'est la même chose. On adore Krishna et puis tout est parfait de cette façon-là.
Mais on peut toujours quand même donner nos révérences aux devas sans nécessairement demander quelque chose, juste les respects.
Exact, oui. Les dévots sont respectueux envers les devas, mais sans nécessairement disons, être versé dans l'adoration des devas pour, disons, une recherche de bénédiction quelconque. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, OK. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne les cours du mercredi. On achève là le premier manuel, le volume 1, parce qu'on est presque rendu à la fin. Il reste en fait 2 pages pour le prochain cours. Alors, je vais mettre en ligne le manuel numéro 2 très bientôt pour que justement il n'y ait pas de trou. Et ça va, je vais le mettre en ligne là, dans pas longtemps.
Merci, Prabhu.
Ça va être rendu disponible. Alors, j'ai passé le message. Maintenant, c'est à moi de l'imprimer pour moi-même parce que je l'ai en numérique, mais je l'ai pas en papier. Je préfère l'avoir une bonne copie en papier. C'est plus facile à consulter, à lire, etc. Alors, on va faire ça. Ça s'en vient très, très prochainement. dans les jours qui viennent. Donc, avant le prochain cours du mercredi, là, il y aura ça. Alors,
D'accord.
vous aurez le temps de vous préparer. Donc, en principe, mercredi prochain, on finit le premier manuel. On va pas aller dans le deuxième, mais il y aura le deuxième de disponible. Voilà.
Merci à vous.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors, on va continuer un petit peu. Le 1.10, Virginie.
1.10. Ce mantra de l'Ishopanishad appelle donc le Seigneur Pushyam, l'ultime soutien, car non seulement il soutient l'entière manifestation cosmique grâce à son émanation plénière, le Paramatma, omniprésent, mais il maintient également le monde spirituel. Hiranmayena Mayena Patrenya Satyasya Piitam Mukam tatvam pushyan apavrinyu satya dharmaya drishtitaye iranyamanyena par une radiance dorée patrenya par un voile éblouissant satyasya de la vérité suprême apiitam couvert mukam le visage Tat, ce voile, Dvam, ta personne, Pushyan, ô toi qui maintiens, Apavrinyu, et la bonté dotée, Satya, pur, Dharmanya, ô Bhakta, Drishtitaye, pour montrer. Ô mon Seigneur, maintien de toute vie, ton éblouissante radiance me cache ton vrai visage, enlève, je t'en prie, ce voile de lumière et révèle-toi à ton pur dévot. Il est intéressant de citer ici le premier paragraphe de la teneur et portée précédente, Bhagavad Gita 10.42. Le Seigneur suprême qui pénètre en chaque chose, en sa forme d'âme suprême, est partout manifesté dans l'univers matériel. Il est vain, dit-il à Arjuna, de voir la grandeur et l'excellence des choses dans leur singularité. Il faut savoir que tout n'existe que grâce à la présence en chacune d'elles de l'âme suprême. Depuis Brahma, l'être le plus gigantesque, jusqu'à la minuscule fourmi, tous n'existent que parce qu'il est en eux et les préserve. Quelle est la différence entre un voyant et un aveugle? L'acuité ou la déficience d'acuité? Quelle est la différence entre un aveugle spirituel et un spiritualiste? Au fait des choses telles qu'elles sont. Évidemment que tous les spiritualistes ne sont pas tous au même niveau. Certains voient ce que d'autres ne voient pas. Ici, le Seigneur enseigne de voir sa position, son rôle dans tout. Vision manquante chez de nombreux soi-disant observateurs avertis, quels qu'ils soient. À juste raison, Arjuna est avisé qu'il est vain de voir la grandeur et l'excellence des choses dans leur singularité. En d'autres mots, il ne faut jamais perdre de vue l'âme suprême dans tout ce qui existe, animé comme inanimé. À l'inverse, il faut toujours voir l'âme suprême dans tout ce qui existe, animé comme inanimé. Cette vision demande de l'acuité spirituelle. Comment l'obtenir? Il faut voir au-delà de la perception des sens. Il faut voir avec les yeux de la connaissance, ce qu'on appelle Gyakna Chakshu. Une vision basée sur la connaissance révèle de la science de Dieu. Relève, pardon. Une vision basée sur la connaissance relève de la science de Dieu. Si l'on veut pareille vision, il faut aller à la source et y aller pour le vrai, pas pour faire semblant. Il faut qu'il n'y ait aucune marge à l'erreur et la tromperie chez la source même. En d'autres mots, il faut que la source du savoir soit bel et bien parfaite. La question peut se poser, existe-t-il pareille source? La réponse est oui. Pour trouver la réponse, il faudra nécessairement regarder du côté des Védas. Et pas n'importe quel Véda non plus, car les Védas traitent de tout. Il faut être très précis si l'on veut atteindre notre objectif. La source de connaissances tout indiquée, rien de moins que la crème de la crème du savoir védique, c'est-à-dire le Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam est parfait en soi. Il est le fruit mûr de la connaissance compilée par l'incarnation littéraire de Dieu, Srila Vyasadeva. Ce Bhagavata Purana, entièrement opposé à tout acte de religion, que motive un quelconque désir matériel, dévoile la vérité la plus haute, accessible aux dévots dont le cœur est pur. Cette vérité, la plus haute et la plus réelle, est la pure réalité qu'il distingue pour le bien de tous de l'illusion. Et elle met fin aux trois formes de souffrance. Ce magnifique Bhagavatam, compilé par le grand sage Sri Vyasadeva, suffit en lui-même à conférer la réalisation spirituelle, la réalisation de Dieu. Et celui qui écoute son message de manière attentive et soumise s'attache dès lors fermement au Seigneur suprême, Srimad Bhagavatam 1.1.2. Le Srimad Bhagavatam est particulièrement indiqué pour les dévots du Seigneur dont le cœur est pur. Qui dit un cœur pur, dit un cœur focalisé sur Dieu, la personne suprême. Cette focalisation équivaut au souvenir constant du Seigneur suprême dans l'une ou l'autre de ses nombreuses formes. Krishna est l'objet de méditation constante de ses dévots. Les dévots du Seigneur prennent plaisir à méditer sur ses noms, ses qualités, son entourage, ses divertissements.
Jai, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est intéressant, hein? C'est profond et ça demande de réalisation, tout ça. Mais disons, le prochain cours, on va revenir sur le point 1.10. Et si Krishna veut se révéler, c'est parfait. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Mais par contre, si Krishna veut demeurer voilé, ben là, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Alors, comme c'est dit là, ô mon Seigneur, maintien de toute vie, ton éblouissante radiance me cache ton vrai visage. Enlève, je t'en prie, ce voile de lumière et révèle-toi à ton pur dévot. Tout est dans les mains de Krishna. Voilà. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Est-ce que questions encore ou commentaires? Ça va? OK. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de venir au cours. C'est toujours très apprécié. Et puis, voilà. Je vais prendre 2-3 minutes pour Virginie et Tara pour le projet de livre. Merci beaucoup, Hare Krishna.
Merci beaucoup, Hare Krishna tout le monde.
Hare Krishna,
Madame
Krishna.
Jai. À mercredi, arrivons.
À mercredi. Jai. Juste pour voir, sonder le terrain, comment ça va de votre côté?
Ça va, ça va. Je continue moi de mon côté les deux. Je pense qu'on est à peu près pareil là. On avance petit à petit, peut-être plus lentement que vous, Prabhu, mais on avance, on avance.
Ok, parfait. Bon ben moi de mon côté ça va bien. Là je suis dans le dernier chapitre. Je travaille sur le 20e chapitre de ce. Dans ce livre-là, volume 2, là. Et dans le chapitre 20, j'ai adopté une façon différente de le faire parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes. C'était, disons, comme on dit en québécois, c'était pas un cadeau. Alors j'ai fait à l'envers. Au lieu de mettre l'anglais dans le français, Comment j'ai fait ça? J'ai pris l'anglais et je l'ai transformé en texte. Et là, j'ai ajouté le français dans l'anglais. Alors, comme ça, l'anglais est en partant déjà tout mis. Et il me reste, j'ai enlevé le sanskrit, les vrais textes sanskrit, là, parce que ça venait avec. Ça, c'est basé sur Veda Base. Et là, je suis à l'étape de commencer comme de travail, là, le mot à mot, justement. Tout le reste, c'est fait. Et je pense qu'en l'espace d'une semaine, ça devrait être fini, ça. Et puis après, moi, je vous laisse terminer à votre rythme, les
Merci pour
chapitres 9 et 10. Et puis, ça sera prêt quand ça sera prêt. Il n'y a pas de feu, là, comme on dit.
vous. Merci.
Et là, je vais aller au Madhya Lila voir qu'est-ce qui se passe avec ça. J'avais déjà commencé Madhya Lila et je vais retourner, mais ça fait longtemps que j'ai fait ça. Et je vais regarder, faire le point, et puis on va aller dans le Madhya Lila après. Alors, c'est ça qui en est.
J'ai une petite question.
Oui. Oui.
En fait, je me suis rendu compte que avec, alors pardon, le texte français, par exemple, des fois il y avait le mot, le seul qui me vient là, mais c'est Guy, le Guy, qui des fois va être écrit GHEE ou GHI avec la barre, dépendant si je regarde le texte en anglais ou en français. Ou donc je voulais juste être sûre, pour même des mots comme ça, on respecte les photos que vous nous avez envoyé.
Oui.
Ok,
Oui,
parfait.
oui, oui.
Ok.
Alors, je crois qu'en français, c'est sûr ils vont pas aller pour le GHEE, là.
Mais c'est ça, c'est ce que je me disais aussi. Donc c'est bon. Ma logique était pas mauvaise. Merci, bravo.
Ouais.
Parfait.
Parce que disons, le raisonnement, là, on va dire que plus on est dans les débuts du texte, des textes, là, on n'est pas dans les débuts, mais en tout cas, si au début, X, Y, ils l'ont écrit d'une façon, ben, on va s'en tenir à ça.
Ok, parfait.
À moins que on voit que c'est carrément un fait établi. Que supposons, dans les deux, trois premiers chapitres, ils ont écrit Guy, GH, avec la barre par-dessus. Puis là, après, pour le restant de l'ouvrage, ils auraient écrit GHEE, mettons. Supposons, là, on donne un exemple. Bien là, c'est évident, on va corriger en fonction de la majorité des cas.
Ok, parfait.
Alors, c'est bon d'amener ce point-là. Et aussi, ben, comme on dit, dans le doute, s'abstenir, là. C'est mieux de poser une question, mais comme on dirait, c'est pas ultimement un si gros problème que ça, parce qu'on peut faire des chercher remplacer à la
Oui,
rigueur, là.
c'est ça.
Ah, c'est pas vraiment difficile à corriger. Et c'est ça. Bon,
Parfait.
comme on discutait avec Virginie au début, en français, ils ont pris des guillemets juste simples, un petit trait, là.
Oui.
Mais en anglais, il y en a, surtout avec Veda Base, là, il y en a beaucoup, c'est double. Mais nous, on va pas suivre l'anglais à ce chapitre-là. On y va comme dans le livre.
Ok, parfait.
On y va avec des guillemets
Oui.
simples. Voilà.
Ok.
Ouvrant ou fermant. Et
Oui.
ce
Et
qu'il y a
sinon.
d'intéressant avec Affinity, c'est que les guillemets s'ajustent tout seuls. Quand on tape le guillemet, il se met ouvrant. Puis plus loin, mettons une ligne ou deux plus loin, si on tape le même guillemet, il se met fermant
Oui, ok, ouais.
automatiquement. C'est intéressant, ça.
Oui.
Alors, ouais.
Mais comme je te disais, on a observé, j'ai observé que moi, souvent, il y a le ventrant, mais il n'y a pas le fermant, en fait. En guillemets.
Il y a le
Oui,
ventre,
c'est
le
ça, c'est
guillemets.
parce que c'est une citation.
Ouais. Voilà. Donc, ça ouvre les guillemets, puis tu cherches, et puis c'est comme ça que je vais voir, et que ce soit sur la version anglaise ou la version française, il n'y a pas le guillemet fermant.
Oui, mais plus loin, à un moment donné, il y a le guillemet fermant. Alors, il y a des occasions, par exemple, il y a ouvrant et fermant. Les deux sont là. Comme par exemple, c'est une citation, là, ils vont dire, par exemple, moi, dans ce que je vois, là, ils vont dire, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a dit, guillemets double, ouvrant, ils font la citation, guillemets double, fermant, ça veut dire que le Seigneur Chaitanya dit juste ça. Mais si, d'autres fois, le Seigneur Chaitanya donne des explications d'un verset qu'il a lui-même cité. Là, je donne un exemple. Il a cité tel verset. Et là, le Seigneur Chaitanya est parti là, sur une série d'explications. À ce moment-là, il va avoir guillemets ouvrant, pas de guillemets fermant, d'un verset à l'autre, jusqu'à temps que ce soit le dernier verset qui ferme l'explication du Seigneur Chaitanya.
C'est ça.
Alors, faut y aller avec le livre.
Exact.
Voilà, c'est comme ça, là.
Hare Krishna, merci.
Parfait. Merci beaucoup, bravo.
Hare Krishna, merci
Hare
beaucoup.
Krishna. Allez.
Alors, à mercredi.
À
À
mercredi.
mercredi. Merci pour ces enseignements. Allez, bon.
Allez,
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 bon.
bon,
Allez,
jai.
allez, jai.
Merci. Allez, bon, jai. Hare Krishna. Bon. Là, là.